Bonjour. On va donc dans les quelques minutes qui vont suivre, nous allons vous présenter avec Sébastien quelque chose que vous avez pu, certains d'entre vous, certains privilégiés ont pu voir sur l'atelier qu'on anime ici pendant 2 jours, qui est la programmation des robots humanoïdes. Alors des robots humanoïdes en général, c'est beaucoup dire. En tout cas, la programmation de nos robots chez Aldébaran. Donc d'abord, je vais vous faire une petite présentation de ce qu'est Aldébaran. Et puis après, on passera dans le vif du sujet. Si on peut passer au slide suivant, j'ai une télécommande, je crois. Voilà, donc le logo, l'adresse d'Aldébaran, le message d'Aldébaran, c'est concevoir un nouveau monde ensemble. Et c'est très lié à la programmation. Donc le message fort qu'on veut vous faire passer aujourd'hui, c'est que ces robots sont des machines. Sont des machines qu'on programme de la même façon qu'un ordinateur, qu'un téléphone portable. Ce sont des machines sur lesquelles on met des applications et les applications vont faire ce qu'on aura voulu qu'elles fassent ou pas si on ne sait pas bien ou si on se trompe. Mais voilà, ça n'est que ça. Tout notre imaginaire d'amoureux de la science-fiction est plein de robots qui se rebellent, de robots qui ne font pas ce qu'on veut, de robots qui prennent le pouvoir, de robots qui reviennent dans le passé pour prévoir ce qui va changer, ce qui va se passer dans le futur. Hormis tous les problèmes techniques que ça pose de retourner dans le passé, ça pose aussi des problèmes de programmation. Comment on va faire, pourquoi on programmerait un robot qui ferait des choses pareilles? Voilà, tout est là. Donc l'intérêt principal alors pour beaucoup d'entre vous, sûrement vous connaissez très bien la programmation, vous devez programmer. Qui s'est déjà programmé ici? Un tiers. Bon, alors vous pouvez vous rendormir, c'est pour les autres qu'il va y avoir... Vous devez tous le savoir, un robot n'a pas de conscience, un robot ne réfléchit pas sur ce qu'on lui demande de faire, un robot fait ce qu'on lui demande de faire. Et voilà, donc c'est ce qu'on va vous présenter par la suite. Donc d'abord un petit mot sur Aldébaran. Donc Aldébaran fabrique 3 robots. Le robot Nao que vous voyez là, qui était déjà ici il y a 3 ans, on avait fait des démonstrations pendant toutes les utopiales de ce que pouvait faire Nao. L'année dernière, on était venu présenter Roméo. Donc, il y avait une démo ici de Roméo qui interagissait physiquement et cognitivement avec vous. Et puis, entre-temps, à l'été 2014, a été créé, fabriqué, produit, présenté Pepper. Donc, Pepper, un robot d'1,20 m que vous voyez là. Et les destinations de ces 3 robots sont très différentes. Donc Nao, ça a été notre premier produit. Il a été utilisé pour l'éducation et la recherche. Historiquement, d'abord pour la recherche. Puis en fait, les chercheurs qui sont tous des enseignants se sont aperçus que c'était aussi un très bon vecteur pour faire de l'apprentissage, pour apprendre la robotique, l'informatique, mais même aussi les mathématiques. Et dans des petites classes, on voit Nao qui sert de répétiteur pour les tables de multiplication, pour apprendre des langues étrangères. Voilà, donc c'est un compagnon qui va simplifier l'apprentissage. Et puis, on a aussi pas mal d'applications de Nao pour l'éducation des enfants autistes, par exemple. On a des chercheurs de l'Université Notre-Dame aux États-Unis qui travaillent sur l'éducation des enfants autistes et qui ont remarqué que l'accueil de ces robots était très bien par des enfants. Et donc, ils peuvent améliorer la perception, l'attention, le suivi de leur enseignement par les enfants autistes grâce à un robot comme celui-là. Roméo, lui, c'est notre plateforme de recherche, donc c'est un grand robot. Ce qu'on voudrait tester sur lui, c'est un certain nombre de nouvelles technologies. Là, le contrôle des efforts, c'est un robot qui est plus grand, donc plus puissant, donc potentiellement plus dangereux. Donc si on veut mettre des robots qui sont forts pour être utiles au contact des gens, il faut éviter qu'ils soient dangereux. Et donc le Roméo va être capable en permanence de surveiller que les efforts qu'il fait ne sont que les efforts nécessaires à la réalisation de la tâche qu'on lui a demandée. C'est une espèce de surveillance, d'autosurveillance, de conscience, on pourrait dire. De la même façon, quand vous faites un geste et que vous tapez quelque chose en bougeant, vous sentez aussitôt qu'il y a une résistance, que l'effort que vous faites n'est pas celui que vous attendez. C'est ce type de conscience, entre guillemets, qu'on peut mettre dans la tête d'un robot comme Roméo. Et on va tester, avec un robot plus grand comme Roméo, des nouveaux usages, l'aide à la personne. Voilà. Et puis, enfin, Pepper. Donc, Pepper, lui, nous a été commandé. En fait, c'est une commande, Pepper, de SoftBank, qui est un opérateur de téléphonie mobile japonais, qui nous a passé la commande d'un nouveau robot qu'il voulait qu'on conçoive pour lui. Ils nous ont demandé... Donc, SoftBank, c'est énorme pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe-là. Ils ont cherché tout autour du monde un fabricant de robots capable de leur fabriquer des robots à leur convenance. Et parmi tous les champions qu'ils ont croisés dans tout le monde, ils ont choisi Aldébaran pour leur fabriquer ce Pepper. Pepper, qui est ici, c'est un robot d'accueil. Il accueille les gens dans des magasins, il leur raconte des histoires, il les distrait quand ils font la queue. Grâce à sa tablette, il est capable de présenter des offres promotionnelles. Voilà, et il interagit de cette façon avec les gens, et ça marche très bien. Surtout au Japon, donc Pepper est utilisé principalement, jusqu'à il y a peu, était utilisé essentiellement au Japon, dans les boutiques SoftBank, puis dans les boutiques Nestlé. Et depuis à peu près 10 jours maintenant, il est aussi présent chez Carrefour. Donc Carrefour a dit, moi aussi, je voudrais que des robots accueillent des gens dans mes magasins pour, ben voilà, pour faire un peu de buzz, pour faire un peu de... Chez SoftBank, l'affluence dans leur boutique a augmenté de 50% quand il y a eu des robots à l'accueil. Il y a des robots qui font rien parce qu'il y a un tel attrait par les Japonais pour ce type de technologie que rien que la présence d'un robot qui bougeait, qui chantait, qui dansait, ça suffisait à faire du trafic. Voilà, Carrefour va aussi petit à petit voir comment ce robot va être utile, comment il peut rendre du service, s'insérer, s'intégrer dans la vie d'un supermarché. Et c'est bien là qu'on en est avec la robotique, hein. On en est là, on n'en est pas encore dans tout ce que vous connaissez mieux que moi dans les films de science-fiction et dans les livres de science-fiction. Le robot, il cherche sa place aujourd'hui. C'est nous qui allons trouver la bonne place, à la fois en fonction de ce qu'il sait faire techniquement et de ce que nous, on veut qu'il fasse. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on est à l'aube d'un tournant, une nouvelle technologie arrive. Il ne faut pas qu'on se fasse balayer, elle progresse doucement. On a le temps de s'organiser pour vraiment mettre les robots là où on veut. Il y a une petite vidéo là qui montre ces trois robots en action. Si vous ne les avez encore jamais vus, vous pouvez passer la vidéo. Voilà. Ça, ce sont dans les lots. Donc vous avez vu la fascination que ces machines observent. Et donc la particularité de Pepper, quand on le met dans des magasins, c'est que c'est le premier robot qui est en contact avec le grand public. Donc des gens qui ne sont pas des informaticiens, qui ne sont pas des chercheurs, qui ne sont pas des professeurs. Ce n'est même pas un public choisi comme les élèves auxquels on impose de travailler avec des robots. C'est les gens qui passaient par là. Voilà. Et nous, on apprend énormément parce que c'est très surprenant de voir comment les gens interagissent avec un robot qui fait cette taille. Voilà, le contact, les attentes, le regard, les échanges de regards, tout ça, on apprend énormément avec cette expérience en vraie grandeur d'un robot au milieu du grand public. Voilà, l'Oral des Barons, c'est une société qui a été créée en 2005, donc ça, on a maintenant 10 ans. On est 400 personnes, la moitié des gens, ce sont des ingénieurs et des chercheurs pour fabriquer ces robots et les améliorer. On est une société française, je pense que vous le savez tous, même si SoftBank a massivement investi dans Aldébaran. Si Aldébaran a pu vivre aussi longtemps et puis fabriquer des robots par milliers, c'est parce qu'on a eu un apport d'investisseurs qui se trouve être japonais, mais il n'empêche pas moins que la société reste française avec toute sa R&D en France. Depuis 2006, donc, on fabrique des NAO, 7000 NAO dans le monde, principalement, comme je vous le disais, utilisés par des chercheurs et par des enseignants. Et quant à Pepper, je vous en ai parlé, 400 dans des magasins pour faire de l'accueil de personnel et 3000 vendus au grand public. Donc là, SoftBank a aussi franchi une étape en disant on va commencer à vendre des robots au grand public et Pepper s'arrache. Ils le mettent en vente sur Internet et donc au moment où ils ouvrent les achats, mettons à midi, ils en mettent 1000 en vente, à midi une, les 1000 sont partis. Donc on se dit que si on laissait ouvert 10 minutes, on en vendrait 10 000 d'un coup. Alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, sans doute ça s'écroulera un petit peu. Mais voilà, c'est pour dire l'engouement que ça, et c'est aussi pour ça que c'est bien de commencer par le marché japonais. Ce sont des gens qui sont très très friands de technologie, vous le savez. Et un peu indépendamment de ce que fait le robot, ils ont de l'attrait pour ça, ils veulent en avoir un, ils veulent être les premiers à jouer avec et à avoir ça dans leur maison. Il y a une vidéo qui tourne sur YouTube où on voit une japonaise qui a mis Pepper dans sa voiture et qui se promène partout avec le Pepper assis à côté de lui, qui ne fait rien, mais elle est juste contente de conduire avec Pepper à côté d'elle. Voilà, et tout ça fait d'Aldébaran le leader mondial de la robotique, parce que déjà, d'une part, il n'y a pas grand monde qui fait des robots, donc ce n'est pas très dur d'être le leader. Mais en plus, voilà, c'est nous qui avons fabriqué le plus de robots, qui en avons vendu le plus et qui avons un énorme retour d'expérience sur qu'est-ce qui fait qu'un robot marche, qu'est-ce qui fait qu'un robot ne marche pas. On a une très forte expérience sur les robots qui ne marchent pas. J'espère qu'on ne va pas vous en faire la démonstration tout de suite. Mais voilà, donc il y a des tas de façons de faire planter un robot, de faire que soit dans son fonctionnement, soit dans l'interaction, dans la façon dont on s'en sert, on est déçu. Donc ça, on apprend énormément et c'est avec des moments comme celui-là où on va continuer à apprendre parce qu'on partage nos difficultés mais aussi nos satisfactions. Bon, alors, une petite présentation de Nao. Donc on va voir ici. Donc c'est un robot qui a 25 degrés de liberté. On appelle ça, donc c'est des 25 articulations motorisées. Sur chaque moteur, sur chaque articulation, il y a un capteur qui permet de calculer, de connaître la position de l'articulation. Et connaissant la position de l'articulation, on en déduit la position complète du robot. Et donc, par exemple, est-ce qu'il tient en équilibre? Est-ce qu'il faut reculer un peu le torse pour pas qu'il tombe? Voilà, donc cette proprioception, on appelle ça comme ça, donc la capture de la propre position du robot est extrêmement importante et nécessaire, mais n'est pas toujours suffisante, comme on va le voir. Après, voilà, vous voyez toute la liste qui est là, c'est tous les capteurs. Ce qui est important pour le robot, c'est de percevoir son environnement. À la différence d'un automate, qui va dérouler sans arrêt le même programme indépendamment de ce qui se passe, juste avec des séquences de temps. Pendant 5 secondes, je fais tel geste, puis par exemple, une barrière de parking. Enfin, j'allais dire que c'est un automate, pas vraiment, parce qu'il y a une petite cellule en dessous, une perception qui va faire que si votre voiture est toujours sous la barrière ne va pas se baisser, normalement. Voilà, donc c'est ça cette perception qui va mettre un peu de l'intelligence dans notre robot. Donc des caméras, des micros, beaucoup de capteurs tactiles, c'est pour ça que vous me verrez souvent tripoter Nao, parce que c'est d'une part le contact tactile quand on a la différence. Alors de plus en plus, on touche aussi les écrans maintenant, mais pendant longtemps, les seuls objets qu'on touchait, on ne touchait pas beaucoup d'objets. Et Nao, il a une vraie présence physique, et donc on aime le toucher, et cette partie de l'interaction est assez naturelle. Des capteurs de pression sous les pieds, une centrale inertielle, donc qui lui permet de connaître l'inclinaison, sa propre inclinaison. Et puis des sonars dans la poitrine pour éviter les obstacles quand ils se promènent. Et puis des haut-parleurs, des LED, donc des luttes des couleurs dans les yeux et dans les oreilles, là encore pour faire passer des messages. Et puis bien sûr, un CPU, un ordinateur à l'intérieur de la tête du robot, tout ça connecté en Wi-Fi. Et vous allez voir là les échanges entre le robot et le poste de commande. Voilà, alors je finis cette introduction peut-être un peu longuette si vous attendiez de voir bouger des robots, par les trois lois de la robotique. Mais les miennes, donc elles sont un peu moins sexy que celles d'Asimov, mais elles sont un peu plus faciles à... Bon, en fait, c'est des lois qui décrivent le fonctionnement d'un robot plus que les règles qu'il faut qu'il suive. Mais il ne faut pas perdre ça de vue, je vous l'ai déjà dit, le robot ne fait qu'effectuer des programmes. Si un robot fait quelque chose, c'est qu'il y a un programme qui lui dit de le faire. Et le programme est écrit par un être humain. Tout ça, c'est bête, mais c'est des choses qu'il faut rappeler. Le programme est écrit par un être humain, même si c'est des programmes qui sont très compliqués, des programmes qui gèrent de l'inconnu, des programmes qui fonctionnent de façon aléatoire, des programmes qui s'enrichissent par apprentissage. À la base, c'est quand même toujours quelque chose décrit par un être humain, et l'être humain a la responsabilité du déroulement de ce programme. Et du coup, le robot ne fait que ce que l'homme a écrit, parce que, à moins, encore une fois, qu'il y ait des bugs, mais dans le principe, c'est ça. L'homme peut se tromper, j'ai oublié des choses dans ma programmation, ou alors j'ai voulu programmer quelque chose et le robot fait autre chose, ça peut arriver, mais tous les informaticiens qui sont là vous diront qu'en général, quand on fait un bug dans un programme, ça ne fait pas un programme super puissant qui marche vachement mieux, ça fait généralement un programme qui ne marche pas du tout. Le robot, c'est pareil, quand vous faites un bug sur un robot, le robot, il ne fait pas des trucs qui vous épatent, et qui disent et il fait rien. Voilà. Et je finis ma petite leçon de robotique par ce petit dessin qui est là. C'est la boucle fermée, la grande boucle fermée de la robotique, que j'ai commencé à décrire avec ma barrière de parking. Une perception, le robot va percevoir le monde dans lequel il est. À partir de ça, il va réfléchir, il va prendre une décision. Encore une fois, c'est une décision qu'il prendra parce que moi, je lui aurais dit voilà les règles qu'il faut appliquer pour prendre une décision. Et il va en déduire une action. Cette action va avoir un effet sur l'environnement ou sur l'attitude du robot qui va être perçu par les capteurs et la décision. Et donc ça, c'est des boucles qu'on trouve à très très bas niveau. Rien que dans le commande du contrôle de position d'un moteur, vous avez cette boucle-là. Mais aussi à très haut niveau, quand vous avez un robot qui doit prendre des décisions sur est-ce que je dois ouvrir une porte parce que ça sent mauvais, parce qu'il y a beaucoup trop de monoxyde de carbone dans la maison, pareil, perception, décision, action. Cette boucle-là est vraiment essentielle pour comprendre ce que c'est qu'une machine dite intelligente, une machine qui prend en compte son environnement pour agir. Voilà, assez de bavardage. On va passer à la programmation. Et donc la programmation, elle va vous être ici principalement présentée sous une forme graphique, un outil qui s'appelle Chorégraph, qui est l'outil que nous avons développé pour programmer graphiquement un robot. Alors évidemment, s'il y a des programmeurs ici dans la salle, ils vont dire c'est pour les enfants, nous si on veut programmer sérieusement, il nous faut du C++, de l'assembleur. Vous pouvez faire tout ça avec les robots d'Aldébaran. C'est un peu moins sexy de montrer de l'assembleur à l'écran, donc on va rester au niveau graphique et en plus ça permet de montrer un peu plus de choses. Mais voilà, Java, C++, Python, MATLAB, voilà, vous pouvez programmer NAO avec les outils que vous voulez. Et là, en l'occurrence, on va le faire avec Chorégraph. Donc voilà, vous êtes dans l'interface Chorégraph. Vous voyez que NAO vous voit un peu flou. Et ça, c'est super important. C'est très bien que vous voyez ça parce que vous voyez le problème majeur de la robotique, c'est que le robot, il a du mal à percevoir son environnement. Déjà, moi, là, avec toutes les lumières dans l'œil, j'ai du mal à tous vous voir. Mais pour lui, c'est encore plus... Mais je me doute que vous êtes du public, je me doute que globalement, vous me regardez. Voilà, pour lui, il va voir une... Vous avez vu ce qu'il voyait. C'est une espèce de brouillard très, très confus. Et voilà, toute la difficulté, une bonne partie de la difficulté de la programmation du robot vient de là, la partie perception qui va déclencher tout le reste. Donc ici, on a mis le robot debout avec une boîte. Donc vous voyez, le principe est très simple. On met une boîte qui dit « Stand up, lève-toi ». Il se lève. Et puis... on me rajoute une boîte qui le fait parler. Ou alors même qui va le faire s'asseoir. Voilà, on tire une flèche entre la flèche qui est en haut à gauche, c'est le point de départ du comportement. Voilà, on le lance et le robot, il s'assoit. Alors on le tient parce que la table est petite, on ne sait pas si elle est très stable. Voilà, mais on fait des démos plus tranquilles.
Bonjour humain.
Et ensuite, il parle. Donc vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Hein. Une boîte, quand la boîte se termine, on passe dans l'autre boîte. Et puis on prend. Alors évidemment, on peut faire aussi deux boîtes en côte à côte. Ah, tu as une petite... en coréen. Alors voilà, toutes les langues que parle Nao.
Je suis vraiment content d'être à Nantes pour les Utopiales. Même pour moi, c'est le futur ici.
Bon, voilà. Donc là, c'est le béaba de la programmation, mais comme vous allez me le dire, là, c'est un automate. On lui met une partition, il la lance et il la joue et c'est tout. Donc on va voir que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des données capteurs qui vont influer sur l'action du robot. Donc on va commencer ici par utiliser des capteurs très simples, qui sont les bumpers. Donc les bumpers, c'est des contacts qu'il a au bout des pieds. Et donc pour chacun des bumpers, alors est-ce que déjà je peux le voir là, tu l'as lancé? Non. On va lancer. Donc on va faire d'abord... le robot, il va tout simplement dire qu'on lui touche un bumper ou un autre. Copier-coller, c'est les outils qui... Alors voilà, ici, quand Nao il lit bumper écrit comme vous l'écririez, il va dire BMP parce que il a une programmation.
BMP gauche.
Voilà, BMP gauche parce qu'on a laissé BMP à gauche.
Bumper droit.
Mais il a bien dit bumper droit. Voilà, vous savez tout. À partir de ça, vous avez une donnée capteur, vous la traitez et puis vous déclenchez une action. Alors évidemment, c'est pas... Voilà, si vous faites des applications comme ça... Vous faites des applications qui ne sont pas très rigolotes. Enfin, déjà, ça ne sert pas à grand-chose, mais si ce n'est à montrer que vous savez programmer. Mais il manque quelque chose quand même. Et donc, c'est là que va apparaître tout le savoir-faire du roboticien. C'est de transformer une application qui est purement fonctionnelle en une application qui va rajouter un petit plus dans le comportement du robot, qui va créer une illusion de vie, d'existence, de conscience du robot. Donc ici, par exemple, on va programmer le robot de telle façon que quand on lui touche le bumper, il va faire comme si on le chatouillait, et il va lever son pied et le rebaisser. Donc là, on utilise, vous voyez, un tableau de bord qui représente l'articulation de la jambe de Nao. Ici, on a fait bouger les articulations, le système a stocké toutes les positions par lesquelles il était passé. Là, on lui dit qu'il y a certaines articulations qui ne nous intéressent pas de bouger, et donc on va se concentrer sur les mouvements de la tête et du pied. On charge.
Bumper droit. Bumper gauche.
Voilà, vous voyez. Et donc là, on a fait... Je peux le relancer ?
Bumper gauche.
Voilà, et donc là, vous voyez,
vous avez un
comportement qui est déjà un peu plus rigolo. Alors, s'il ne disait pas bumper gauche, vous auriez un petit robot qui est là, qui attend. Vous lui touchez le pied, hop, il remue son pied comme vous feriez s'il y a quelque chose qui vous dérange. Vous voyez, tout ça, ça va changer l'attitude, l'interaction, le fait, la façon dont vous allez regarder cette machine. Alors, c'est du fake, on est bien d'accord. Hein. Alors, vous avez comment c'est fait à l'intérieur. Donc, maintenant, vous saurez qu'à chaque fois que vous chatouillez un robot et qu'il fait semblant que ça le chatouille, eh bien, c'est parce que quelqu'un a dit « ça te chatouille, donc tu bouges le pied ». Mais spontanément, si vous touchez le bumper du robot, vous comprenez bien que tout ce qu'il va faire, c'est d'avoir une variable qui passe de 0 à 1, qui est l'état de son bumper. Donc voilà ce que... Alors, une fois qu'on est parti de là, alors on va aussi servir des capteurs tactiles pour donner des ordres au robot. Donc là, on va montrer tout ce que sait faire le robot avec... on a vu qu'il savait s'asseoir. On va lui dire qu'il va se lever quand on lui touche la tête. Voilà. Et on va même lui le faire marcher un petit peu. Alors, il n'y a pas beaucoup de place pour marcher sur la table. Peut-être je le mettrai au sol. Et ici, quand on lui dit de marcher, donc il va marcher en ligne droite et on lui donne une distance en mètres. Donc là, ça fait 20 cm. C'est extrêmement risqué. Alors, donc ici, on a dit le bumper devant, ça doit lui permettre de se lever. Comme Sébastien est responsable de la manip, si le robot casse, c'est prélevé sur son salaire. C'est pour ça qu'il est très tendu. Et puis, on va lui demander de marcher. Eh, ça a marché. Et donc, merci. Et donc, tu vas pouvoir te rasseoir. Voilà. Alors... Ici, c'est bien, mais vous voyez, taper sur la tête du robot, c'est pas super naturel. On va essayer de le faire avec la parole maintenant. On a depuis longtemps estimé que quand on avait un robot humanoïde, l'interaction naturelle avec un robot humanoïde, c'est pas de lui taper sur la tête, c'est de lui parler. Hein ? On lui a mis un visage, on lui a mis des yeux, on lui a mis des oreilles. Donc spontanément, quand vous voyez Nao, généralement, vous lui dites « coucou Nao » comme ça. Vous lui tapez pas sur la tête pour qu'il vous dise « bonjour ». Et même, il faut vous dire que cette habitude que nous, on avait de toujours lancer nos démonstrations en appuyant sur la tête, et on a aussi un mode qui fait que quand le robot part à faire quelque chose et qu'on a envie de l'arrêter, on lui met toute la main pour lui toucher tous les capteurs de la tête en même temps. Et donc, on démontrait ça à nos amis japonais. Et donc, on faisait les démos, puis on lui tapait tout le temps sur la tête pour l'arrêter, pour lancer des trucs. Et on les voyait qui étaient comme ça. Voilà. Et au bout d'un moment, ils ont dit « Arrêtez, arrêtez de lui taper sur la tête ». Alors on dit, mais c'est une machine, on peut lui taper sur la tête. Non, c'est pas une machine, vous lui tapez pas sur la tête. Et on a appris depuis qu'au Japon, taper sur la tête de quelqu'un, c'est extrêmement humiliant. C'est comme lui cracher au visage. Et donc, voilà, c'était une des choses qu'on va devoir prendre en compte, c'est que, bah, du coup, tout l'héritage culturel qu'on a dans l'interaction avec les gens, le robot va en hériter, le robot humanoïde, du fait de sa forme, va en hériter aussi. Donc, taper sur la tête, surtout quand les robots grandissent, on va perdre l'habitude de faire ça. Alors ici...
Que dois-je faire ?
Debout.
Debout.
Voilà, donc là, vous avez vu, c'est une boîte très simple, une boîte choix dans laquelle on a mis deux mots. Et on va la
que
relancer.
Dois-je faire ?
Assis ?
Assis.
Donc, c'est la moindre des choses, hein, d'avoir un robot obéissant. Et on pourrait faire un robot désobéissant. Voilà, on va commencer à étudier la rébellion des robots. Comment on pourrait rebeller le robot, là ? Voilà, on va faire ça. On va simplement... Donc, on a un programmateur malveillant qui va dire...
Et à chaque fois qu'on lui dira de s'asseoir, en fait, il va se lever.
Et donc, voilà, notre programmateur est malveillant. Mais c'est pas le robot, vous êtes bien d'accord. Et donc, ça y est, t'es chaud.
Que dois-je faire ?
Assis.
Assis, non.
Voilà, c'est Terminator, c'est la rébellion des machines. Mais vous voyez, la rébellion des machines, elle est derrière. C'est lui, hein ? C'est lui qu'il faut revenir tuer dans le passé. Voilà. Et alors après, donc là, maintenant, moi, je suis un malin. J'ai vu qu'il faisait exactement le contraire de ce que je voulais qu'il fasse. C'est-à-dire, quand je lui dis « assis, il se lève », et quand je dis « se lève-toi », il s'assoit. Mais le programmateur encore plus malveillant, il pourrait mettre du « random ». Ce qui fait que je peux plus savoir à l'avance ce que va faire mon robot. Ça, c'est une petite manip à la limite. Alors, on vous montre tout. On n'a rien préparé à l'avance. Donc, c'est un petit peu long, mais c'est pour vous montrer que, voilà, vous avez, y a rien de truqué. On est habitué à truquer beaucoup de démos. Là, on fait tout en live devant vous. Et donc voilà, la boîte random, elle va sortir une fois 0, une fois 1. Donc quoi que ce soit que je dise, eh ben, il va tirer au hasard, il va faire 0 ou 1, et des fois, et voilà. Alors, on y va.
Que dois-je faire ?
Assis.
Assis.
Voilà, et là il est passé dans stand-up parce que le random il a sorti 0 alors que assis ça aurait correspondait à 1.
C'est pas moi.
Voilà. Et si on réessaye, on va lui redire assis. Il est reparti là.
Que dois-je faire ?
Assis.
Assis.
Voilà, et là coup de bol, ça tombe bien. Et donc ça y est, là on a ensemble, nous venons de créer une créature complètement folle. Parce que ces prévisions, ces actions sont imprévisibles. Je pense que vous êtes tous terrifiés de savoir que ce robot imprévisible est dans la nature. On va le garder avec nous. Voilà. Et donc, encore une fois, ce que je veux vous montrer, mais vous le comprenez bien, même un robot qui fait n'importe quoi, derrière, il y a quelqu'un, soit qui a fait n'importe quoi parce qu'il est nul, soit qu'il a fait n'importe quoi parce que c'était délibéré. Mais rien de plus. Je crois que c'était dans les grandes lignes ce que je voulais vous montrer. Après, c'était... J'avais un point sur le... Donc, on a vu le... Ah oui, alors, des petits... Alors, bien sûr, chez Aldébaran, on fournit avec des briques de base.
Je suis vraiment content d'être à Nantes pour les utopiennes. Même pour moi, c'est le futur ici.
Bon, là, on est allé un peu trop vite. Ce robot est trop rapide pour moi. Vous avez vu que la marche, par exemple, je vous dis que je vous donne un robot, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je suis gentil, je vous ai apporté la boîte marche. Je vous ai apporté aussi la boîte lève-toi, la boîte assieds-toi. Ah oui, il y a une autre boîte qu'on a oubliée. Donc il y a des briques de base que nous, on vous donne pour que vous développiez vos applications dessus. Et là, notamment, c'est une boîte que je voulais vous montrer qui est sympa. On a fait un « c'est », donc comme parler, c'est ce qu'il a fait au début, là, quand il nous a dit la boîte « c'est », on va peut-être le faire se lever avant de dire quelque chose, c'est quand même plus classe quand il est debout. Fais le nom animé d'abord, ouais. Ah, oh. Oh là. Oh là là. Donc notre petit pépère se lève. Et après, qu'est-ce qu'il va
faire ? Je suis vraiment content d'être à Nantes pour les utopiales.
Et donc là, vous voyez,
c'est le futur ici.
Il fait spontanément des gestes pour accompagner son discours. Alors ce sont des gestes là qui sont relativement aléatoires. Ce sur quoi on travaille, c'est que le robot comprenne les mots qu'il est en train de dire et fasse des gestes qui sont adaptés à ce qu'il dit. Très généralement, le premier truc que dit Nao, c'est bonjour. L'animateur, il a mis d'abord, tout au début, un geste qui dit bonjour. Et 95% des fois, ça marche. Voilà. Mais bien sûr, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il interprète de plus en plus les mots qu'il est en train de prononcer et d'adapter son geste à ce qu'il est en train de dire. Donc, s'il parle de quelque chose de gros, il va faire gros. S'il parle de petit, il va faire des gestes petits. Il va énumérer quand il donnera des chiffres. Voilà. Et donc, on est avec... Tu voulais passer à l'apprentissage ? Je voulais montrer d'abord le... Tu sais, quand il va se coucher. Alors, on a vu qu'ici, y a un petit garçon qui te dit bonjour. Là, tu pourrais le regarder. Là, vous avez vu que le robot ne fait encore que prendre des ordres de ma part, soit parce que je lui tape sur la tête, soit parce que je lui donne un ordre. Mais je voudrais aussi qu'il puisse soit capable de prendre en compte son environnement et décider tout seul ce qu'il doit faire. On va illustrer ça avec une fonction qui détecte que le robot est dans le noir, qu'on a éteint la lumière. Voilà, donc ici on a mis la boîte, il fait noir. Je peux y aller, c'est chaud.
Il fait noir, j'ai peur.
Voilà, donc ici, vous voyez, je ne vais pas donner d'ordre, j'ai juste éteint la lumière et il a spontanément pris en compte son environnement. Alors c'est évidemment, tout ça est très très simple, hein, mais pour en déduire ça, et il pourrait même aller se coucher quand il est fatigué, mais... Lying back... Alors, c'est un très beau geste, le geste d'aller se coucher. C'est un des gestes préférés des animateurs d'Aldébaran, aller se coucher. On est prêt ? Allez, c'est la nuit. Je pense que
il fait noir, au dodo. Il fait noir, au dodo.
Alors, il y a le micro HF qui ne va pas aimer du tout ça. Si, ça va. Alors, on va le réveiller avant qu'il se mette à ronfler. Voilà, et tu peux le remettre debout. Au passage, vous voyez un peu de Python, là. Vous voyez toutes ces boîtes qui sont programmées de façon très graphique. On peut rentrer à l'intérieur pour voir la programmation Python, si vraiment ça vous intéresse. Et là, vous pouvez apprécier les abdos. Voyez ici, par exemple, le robot ne prend pas en compte la position de son centre de la centrale inertielle. Donc d'habitude, avec son équilibrage habituel, il sait que quand il plie au milieu de son ventre, les jambes restent au sol et c'est le corps qui remonte. Mais comme ici, on a alourdi, en mettant le micro HF dans le dos du robot, on a alourdi le haut du buste, et bien le même geste provoque la levée des jambes au lieu de faire la levée du buste. Et ça, donc on serait des bons programmateurs, on aurait mis une centrale inertielle, on aurait regardé les données de la centrale inertielle pour prendre ça en compte et qu'ils réagissent. Bon, alors maintenant, on va travailler sur le dialogue. Donc le dialogue, voilà, encore une fois, c'est pour vous montrer que très très souvent quand les gens arrivent, je peux poser une question au robot. Et donc, allez-y, posez une question au robot. Seulement, les questions, elles ne sont pas prévues, elles n'ont pas été écrites. Et donc, généralement, le robot, il ne va rien comprendre du tout. Donc là, comment nous, on prépare une démo pour un salon ? On réfléchit aux questions que les gens vont nous poser. Et vous savez vous connaissez le jeu Akhenator ? Qui connaît le jeu Akhenator ? Bon, ça vaut le coup que je l'explique. C'est un jeu qui devine, vous posez le système vous pose des questions, l'ordinateur, ou on l'a fait sur le robot, et le système pose des questions, et en moins de 20 questions, ils sont capables de deviner la personne à laquelle vous pensiez. Et en fait, ça, c'est un travail statistique et énorme du fait que, en gros, tout le monde pense aux mêmes gens. Voilà, je pense qu'on fera un sondage ici. Je vous demande de penser à quelqu'un. Là, voilà, tout ça, vous penseriez à François Hollande. Là, là-bas, ça sera Barack Obama. Ici, ça serait, j'allais dire, Zlatan Ibrahimovic, mais non. On n'est pas à Paris, mais voilà. Donc en gros, malheureusement, hein, c'est ça qui fait la force de Google, on est un peu tous pareils. Et donc en s'appuyant sur ces statistiques-là, le système arrive à poser des questions et à trouver les bonnes questions qui vont trouver très rapidement arriver sur la personne à laquelle on pense. Donc là, on l'a fait en dur et on a écrit deux questions. Et donc Nao va me poser une question.
Que veux-tu savoir ?
Comment t'appelles-tu ?
Comment t'y appelles-tu ? Nao.
Voilà, donc il a appris la question par cœur, il a la réponse par cœur.
Que veux-tu savoir ?
Quelle est la meilleure équipe de foot ?
Quelle est la meilleure équipe de FDE foot ? Le FC Nantes.
Voilà, j'ai tuné un peu l'application, hein, bien sûr. Donc voilà, donc là c'est écrit en dur. Et donc c'est gentil, mais ça fait, c'est qu'un automate de plus, quoi. Bon, vous remarquez que la reconnaissance vocale marche bien, parce que même avec les fautes de frappe, bah, on a réussi à reconnaître quand même ce que je voulais dire. Et alors, maintenant, ce que je voulais vous montrer, alors est-ce qu'on essaye, Sébastien, t'es chaud ? Alors, on va faire un truc qui est beaucoup plus compliqué, et qui est à l'état de recherche chez Aldébaran. Donc on prend un petit risque, et je crois qu'on ne l'a jamais montré en public, donc vous nous en excuserez si ça ne marche pas bien. C'est de donner au robot une capacité d'apprentissage. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, parce que s'il n'y a que le programmateur qui met des trucs dans le robot et le robot ne peut ressortir que ce que le programmateur a mis, on va être un petit peu limité. Avec l'apprentissage, que ce soit l'apprentissage de tâches ou l'apprentissage de connaissances, on va pouvoir ouvrir au robot beaucoup, beaucoup plus de choses. Et donc là, on a un petit dialogue, donc je vais refaire un peu le même dialogue, mais cette fois...
Tu veux savoir un truc ?
Comment tu t'appelles ? Qui m'a entendu là. Comment tu t'appelles ?
Nao, robot. Oui, c'est bien vrai.
Voilà. Donc ça, je lui ai appris avant.
C'est bien ça ?
Alors je vais lui dire non. Je ne sais pas ce qu'on pourrait lui donner comme autre nom aussi.
Caresse-moi la tête si tu es d'accord ou sinon tapote une de mes mains.
Alors, donne-moi ta main que je te tape dessus. Donc je ne suis pas content.
Mince.
Voilà, je lui dis, ça, c'est pas la bonne réponse.
Dis-moi quelle est la bonne réponse.
Alors, tu m'écoutes ? Barack Obama.
Ok.
Voilà, donc maintenant, il a appris...
Tu veux savoir un truc ?
Comment tu t'appelles ?
Barack Obama, c'est sûr.
Voilà, maintenant il sait qu'il s'appelle Barack Obama.
On va c'est bien ça ?
C'est très bien, bravo. Et donc là, je le félicite. Voilà.
Mince.
On a un faux contact dans la main droite.
Dis-moi quelle est la bonne réponse.
Alors ? François Hollande.
Ok.
Voilà, maintenant il sait qu'il s'appelle François Hollande.
Tu veux savoir un truc ?
On va réessayer, j'espère que ça va marcher. Comment tu t'appelles ?
François Hollande, c'est clair.
Voilà. Donc vous voyez, avec l'apprentissage, c'est encore pire.
C'est bien ça ?
On peut lui faire n'importe quoi. Alors je vais essayer de le caresser gentiment sur la tête.
Cool.
Voilà, il a dit cool, il sait que c'est la bonne réponse. Bon, vous avez compris.
Tu veux savoir un truc ?
Alors, on va aussi le... On va lui... Quelle est la meilleure équipe de foot ?
RC Nantes, mais c'est bien sûr.
Alors, moi, je vais le reprogrammer. Je vais le changer son apprentissage.
C'est bien ça ?
Non, non, tu as été mal élevé par un Nantais.
Et mince.
Je te tape sur les mains, voilà. C'est pas bien.
On va Dis-moi quelle est la bonne réponse.
En terrain neutre. C'est l'OM.
Ok.
On peut vraiment apprendre n'importe quoi, un robot. Vous voyez comme c'est dangereux ?
Tu veux savoir un truc ?
Comment tu t'appelles?
François Hollande, j'en suis sûr.
Ouais. Bon, et puis etc., etc.
C'est bien ça?
C'est très bien. Bravo. Tu es un bon robot.
Cool.
Bon, etc. Donc, je ne vais pas continuer beaucoup plus.
Tu veux savoir un truc?
Oh. Allez, on finit. Il est curieux. Ah, tu l'as arrêté. Quelle est la meilleure équipe de foot?
RC Nantes, mais c'est bien sûr.
Oui, c'est gravé dans sa tête. Hein. Il ne veut pas entendre parler de l'OM.
C'est bien ça?
Bon, on va dire oui. On va dire que c'est bien. Oui, oui, c'est bien. Il va se recoucher et c'est très bien. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Hein. Depuis l'automate qui est très bête, il fait toujours la même chose. Le robot qui est un petit peu plus malin parce qu'on lui donne des ordres, il l'exécute. Le robot qui est encore un petit peu plus malin parce qu'il perçoit dans son environnement et il agit en conséquence. Et après, l'étape d'après encore, on va lui apprendre à la volée des choses et il va de cette façon se former à notre contact. Et puis alors là, il y a encore une fois de la statistique. Hein. Nous, on imagine que ce système-là, donc là, derrière Nao, il y a une base de données. Donc il y a un serveur sur le PC qui stocke ces données-là et qui va enregistrer les statistiques de qui est la meilleure équipe de foot, etc. Et donc si tous les robots Nao récupèrent cette information statistiquement, eh ben voilà, ce sera juste la démocratie et pas forcément la vérité du terrain qui dira qui est la meilleure équipe de foot. Et puis, évidemment, nos recherches vont encore plus loin sur l'apprentissage de tâches, où le robot, on va lui dire, voilà comment on fait des gâteaux, il va aller lire une recette sur Internet, il va aller regarder des vidéos de Cyril Lignac qui fait la recette, il va prendre les mêmes gestes, et il saura de cette façon-là apprendre de plus en plus de choses. Mais vraiment, encore une fois, et c'est là que certains s'inquiètent un petit peu, mais si le robot apprend à faire des choses, s'il les apprend tout seul, pendant que moi, je ne suis pas là, voilà, je lui dis le matin, ce soir, je veux du bœuf miroton, tu te débrouilles. Et donc, dans la journée, le robot va aller regarder des recettes, il va commander, on va lui livrer, il va faire le... Voilà. Et si c'est très mauvais à la fin, et s'il m'empoisonne, qui est responsable? Et c'est parce qu'il sera tombé sur une recette d'un empoisonneur qui fait un bœuf miroton empoisonné. Qui sera responsable de cet empoisonnement? Voilà. Donc, c'est des questions que certains se posent. Moi, nous, notre position actuellement, c'est que il faut qu'il y ait des espèces de responsabilités en cascade qui se mettent en place. Par défaut, le responsable, c'est le propriétaire du robot. Donc c'est mon robot, le robot fait une bêtise, j'assume. Et si je fais du mal à quelqu'un de cette façon-là, c'est mon assurance qui paiera les dégâts qui ont été faits. Après, je peux très bien me retourner en disant « Ouais, mais là, le robot, il a dysfonctionné, je vais aller voir le constructeur. Constructeur, j'ai dit au robot de faire du bœuf miroton, il m'a fait autre chose, c'est ta faute. » Et donc là, soit le constructeur dira « bah tu l'as pas surveillé » ou alors « en effet, il y avait un bug » et à ce moment-là, le constructeur prendra une partie de la responsabilité. Un peu comme les accidents de voiture. Quand il y a un accident de voiture, d'abord, c'est votre assurance à vous, conducteur, qui indemnise. Et après, eh ben, si ce n'était pas de votre faute, c'est les freins qu'on lâchait, c'était de la faute du constructeur, votre assureur se retourne contre le fabricant d'automobile. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce robot... Il offre, alors il est déjà à ses balbutiements aujourd'hui, mais il va offrir des grandes capacités, des grandes possibilités. On a du temps devant nous hein, avant d'arriver au robot qui vous fait la cuisine, qui commande.
À la prochaine.
Mais voilà, il faut qu'on mette en place toutes ces règles, tout ce mode de fonctionnement, ces assurances, ces définitions de responsabilité pour que quand ces robots seront au niveau auquel on rêve beaucoup d'entre nous, eh bien, le cadre éthique, sociétal, juridique soit le bon et qu'on n'ait pas trop de problèmes. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. S'il y a des questions, on a peut-être 5-10 minutes pour en prendre. Il y a un jeune admirateur là.
Je veux lui dire bonjour.
Bonjour. Tu veux qu'il dise bonjour? Je crois que... Alors tu vois, c'est pas dur, tu aurais presque le faire toi-même si tu sais écrire.
Bonjour.
Et voilà. C'était 100% des clients sont satisfaits. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pardon. Après, il y aura une jeune fille ici. Oui.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir, il y a combien d'étapes pour créer un robot?
Combien d'étapes? Alors, c'est... Alors, pour créer un robot, depuis le tout début, en fait, la première étape, c'est d'imaginer ce qu'on veut faire avec son robot. Si vous voulez un robot qui marche tranquillement, ou un robot qui court, ou un robot qui monte les escaliers, ça ne sera pas le même robot. Donc, il faut d'abord, par simulation, imaginer le dimensionnement du robot, la taille qu'il va faire, le poids qu'il va faire, et du coup, les capteurs dont il aura besoin pour faire ce qu'il faut faire. Donc, une fois que vous avez tous ces ingrédients, c'est comme une recette de cuisine. Eh bien, vous allez ensuite faire la conception mécanique et électronique, donc dessiner les pièces mécaniques, dessiner les câbles qui vont passer à l'intérieur, les cartes électroniques qui vont faire l'acquisition des capteurs et piloter les moteurs. Voilà. Et à la fin, vous avez toute la partie informatique. Il faut programmer toute l'informatique, tout l'ordinateur qui est dans la tête du robot pour piloter tous ces actionneurs et récupérer les informations des capteurs. Donc les étapes sont innombrables. C'est un processus qui ne se termine jamais, mais dans les grandes lignes, c'est ça.
Bonjour. Alors, du coup, vous parliez du fait que le robot était capable d'aller sur Internet et qu'il était branché au Wi-Fi. On peut se poser la question, du coup, de est-ce que ce robot pourrait, par exemple, attraper un virus en allant sur Internet, comme ça a été traité dans une série, puisqu'on est dans un festival de science-fiction, une série suédoise, Real Humans. Est-ce qu'il pourrait éventuellement, quelqu'un d'autre pourrait prendre le contrôle du robot? On parlait récemment des voitures récentes dont on peut prendre le contrôle via Internet. Donc voilà, est-ce que vous avez pensé à tout ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place?
Alors, on a pensé à tout ça, bien sûr. On est en train de mettre des choses en place. Aujourd'hui, nos robots, dans leur état actuel, ne sont pas des menaces pour la société. Donc s'ils se font hacker, ce n'est pas très très grave. Mais on sait qu'il faut qu'on prévienne. Là, de plus en plus, maintenant, les robots vont être chez les gens. Et donc, c'est vrai que notre grande crainte, c'est que quelqu'un pirate votre robot, puis regarde ce qui se passe chez vous, à quelle heure vous êtes là, à quelle heure vous n'êtes pas là, où sont cachés les bijoux. Voilà, donc tout ça, bien sûr, ce sont nos craintes. Et, on est en train d'implémenter des sécurités pour que ces choses-là n'arrivent pas. Mais on n'est pas tout seul. Ce ne sont pas des problèmes spécifiques au robot, comme vous l'avez dit. Ça se trouve sur les voitures. On commence à pirater les voitures, on pirate nos ordinateurs, on pirate nos mobiles. Le robot ne sera pas à l'abri de ça non plus. Donc c'est sûr que ça arrivera. Et il faut que nous, on soit toujours au fait de ce que c'est, de tous ces logiciels de protection pour qu'ils soient implémentés sur nos robots.
Bonsoir.
Bonsoir.
J'ai une question un peu technique vis-à-vis de votre logiciel. Est-ce qu'il y a une limite de taille ou de profondeur pour les programmes qu'on peut faire avec votre interface, quoi ?
En termes de boîtes ?
De nombre de boîtes et puis d'arborescence de...
Alors, est-ce que tu peux montrer l'arborescence d'Alex? On ne l'a jamais atteint, cette limite. Je pense que ça dépend de la RAM disponible sur votre ordinateur. Fonctionnellement, il n'y a pas de limite. Mais après, l'inconvénient de cette programmation graphique, c'est que ça devient très vite complètement illisible. Alors, ça demande une certaine discipline de programmer en graphique. Alors, je ne sais pas si on va réussir à ouvrir la... Enfin, bref, si on la retrouve, ça sera très bien. Voilà. On a ici, ça c'est la démo d'apprentissage qu'on a vue ensemble, hein, donc qui avait l'air assez simple, mais il y a des tas et des tas de cas à faire et qui vont amener à des plats de spaghettis, hein, n'ayons pas peur des mots. Donc c'est pas mal pour faire des prototypes, donc pour développer très vite, pour développer des choses simples. Après, nos développeurs vedettes, ils utilisent ça comme grand squelette. Et à l'intérieur, après, ils vont développer en C++, en Python, parce que c'est quand même, ça prend moins de place et ça finit par être plus lisible quand même.
Merci. Bonjour, merci pour la conférence. Je voulais savoir si vous donnez avec le robot des logiciels aux utilisateurs, enfin des programmes qui sont déjà prêts. Ou si c'est à l'utilisateur de faire ce qu'on a fait là, c'est-à-dire de faire toutes les boîtes. Et une deuxième question, est-ce que le robot est capable d'ajouter des boîtes si on lui demande?
Alors, la première question, on va parler de Pepper, qui est un peu plus proche de l'application grand public. Donc Pepper arrive avec cet environnement de développement exactement le même, et il y a un store, comme pour nos mobiles, sur lesquels vous pouvez aller chercher des applications. Et donc, vous allez charger les applications qui vous intéressent, vous les achetez sur le net et vous les téléchargez. Donc, c'est de cette façon, c'est pour ça que, et sur Nao, il n'y a pas autant d'applications. C'est une des raisons pour lesquelles Nao n'est pas en vente au grand public. Comme il n'y a pas beaucoup d'applications, Alors, des geeks vont s'amuser à programmer des trucs, mais le grand public, il va programmer 2-3 trucs une fois pour montrer qu'il sait le faire, puis après, ça va le fatiguer. Et d'autant plus qu'il n'arrivera jamais à faire des trucs très, très compliqués. Donc, sur Nao, il y a une limitation. Sur Paper, ben, on voit commencer à arriver des applications de plus en plus poussées, de plus en plus compliquées, qui font que les gens arrivent à vivre sans jamais avoir à développer d'applications, simplement en téléchargeant des applications qu'ils trouvent sur Internet, comme avec les téléphones portables. Après, ajouter des boîtes, on peut très bien imaginer un script Python qu'on met à l'intérieur d'une boîte, dont le rôle est de créer une boîte. Donc, en effet, on peut le faire. Voilà. De là à dire que c'est l'éveil d'une conscience, c'est purement mécanique, en fait, parce que ce qui sera écrit dans cette boîte, ça sera le programmeur qui aura dit au robot, crée une boîte dans laquelle il y aura ça écrit, ou il y aura n'importe quoi écrit. Mais ce n'est pas l'éveil d'une conscience, c'est juste une espèce de truc, bon, qui peut être utile, hein, peut-être il y a peut-être des applications où ça se justifie, pour programmer un peu dynamiquement. Mais pour moi, c'est de la même nature que l'apprentissage simpliste que j'ai fait là, c'est-à-dire on apprend au robot à apprendre, mais c'est quand même toujours nous qui maîtrisons ce qu'il apprend. Ah, encore une.
Est-ce que vous pensez que un jour, avec la technologie qu'on a, on serait capable de mettre à l'intérieur d'une machine une intelligence artificielle pour faire en sorte que le robot puisse avoir une intelligence et en quelque sorte, pas une vie, mais une conscience telle que nous on en a dans plusieurs années, des dizaines ou des vingtaines?
C'est très bien que vous ayez fait la différence entre intelligence artificielle et conscience, parce que la vraie question que les gens posent en général quand ils parlent de l'intelligence artificielle, c'est la conscience. L'intelligence artificielle, notre robot là tel que le voyez, il est plein d'intelligence artificielle. Hein. Reconnaître les mots, reconnaître des visages, ça c'est des techniques d'intelligence artificielle, aval de réseaux de neurones, voilà. Donc c'est très bien que vous ayez fait cette nuance. Après la question de la conscience, qui est le robot va avoir un avis sur ce que je lui demande, sur ce qu'il fait, et il va être capable de dire ah ça c'est bien, je le fais, ou ça c'est pas bien, je le fais pas. On peut programmer ça, mais on va le programmer, c'est-à-dire que c'est moi qui vais dire au robot voilà les règles du bien et du mal, à chaque fois que tu fais une application tu passes dans ce filtre là et tu dis si c'est bien ou si c'est mal, et si c'est mal. Mais vous voyez, c'est pas la conscience du robot, c'est ma conscience que j'aurais mis dans le robot. Il aura donnera l'impression d'avoir une conscience, mais en fait, c'est une conscience que moi, je lui aurais mis. Et le jour où le robot aura une autoconscience, encore une fois, cette autoconscience, c'est moi qui lui aurais dit de l'avoir. Donc, voilà. Après, on me dit, mais en fait, peu importe d'où vient la conscience, ce qui compte, c'est que le robot en ait une. C'est vrai, mais pour moi, d'un point de vue vraiment déontologique, c'est complètement différent. Le fait que ce soit moi qui ai donné une conscience, ou les moyens au robot d'en avoir une, ou qu'il en ait une toute seule, ça change tout quand même. Et pour finir, une dernière chose, parce que derrière ça, il y a la question souvent, qu'on nous pose souvent, qui est la question de l'éthique. Et c'est un peu les lois d'Asimov aussi, on peut finir par là. Les lois d'Asimov, voilà, ils disent qu'il ne faut pas faire du mal à un être humain. Combien de fois, nous, êtres humains, on ne sait pas si notre action va faire du bien ou du mal à un être humain. Évaluer la portée de nos actes, c'est très compliqué. Évaluer ce qui est bien ou ce qui est mal, pour un être humain, bah, c'est pour ça qu'on paye des philosophes. C'est pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça fait des milliers d'années que ça dure. Pourquoi le robot, il serait plus capable que nous de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal? Il faudrait que déjà, nous, on le définisse et qu'après, on le code. Voilà, ou qu'on donne des règles au robot pour évaluer ce qui est bien et ce qui est mal, et que statistiquement... Mais voilà, mais comment on va faire ça? Donc, vous voyez, se délester des questions d'éthique sur un robot en disant le robot, il doit être éthique, il doit être éthiquement correct, vous comprenez bien que c'est impossible. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas le faire. Et donc... comment le robot pourrait évaluer des choses aussi sensibles que ça si on ne lui donne pas quelques critères et quelques règles? Et après, si on lui donne des critères et des règles, eh ben c'est notre éthique que le robot appliquera. Ça ne sera pas le robot qui aura sa propre éthique. Allez, on va se coucher, Nao. Merci beaucoup. Ah oui, parce qu'on a un autre atelier qui commence dans 5 minutes.